Où sont passés les Romains? À la découverte de Muséal.
Bonjour, au programme de la chronique d'octobre de Où sont passés les Romains, vin et viniculture dans l'Antiquité. Et oui, nos ancêtres romains et gaulois cultivaient le raisin, naturellement présent, mais avaient également compris qu'on pouvait en faire du vin. Des recherches ont permis de certifier que dès le 6e siècle avant notre ère, il y avait déjà des échanges sur le pourtour méditerranéen. Ce que l'on savait moins, c'est que des recherches dans le secteur d'Alba la Romaine ont ouvert de nouveaux savoirs. Précision d'Adeline Clé, docteur en histoire et responsable du développement des publics à Muséal.
Oui, déjà sur le pourtour méditerranéen, puisque les Grecs étaient des producteurs et des consommateurs de vin et se sont établis sur tout le pourtour méditerranéen. L'exemple de Marseille, il y a l'exemple également d'Olbia qui est hier, aujourd'hui. On sait qu'il y a eu des échanges entre les Grecs et les Gaulois, notamment à travers l'axe de la vallée du Rhône qui seront montés assez haut. Bah, ces échanges se matérialisaient notamment par des échanges de vin dont on sait que les Gaulois étaient extrêmement friands. Ensuite, bah, ces Gaulois, contrairement à ce qu'on pense, ne faisaient pas que consommer. Et là, c'est tout l'intérêt de la découverte qui était publiée cette année sur Alba. C'est que les Gaulois, à Alba, au 5e siècle avant notre ère, produisaient du vin. Sûrement qu'il était consommé, mais peut-être pourquoi pas exporté également.
Et qu'est-ce que les archéologues ont mis à jour pour qu'il y ait publication ?
Ce qui a été mis à jour, alors d'où l'intérêt des fossés. Justement, dans un de ces fossés qui a été mis au jour dans le cadre d'un chantier de construction d'un lotissement à la sortie d'Alba en allant sur Valvinière, eh bien, il y a eu des traces de pépins de raisin, de ceps de vigne carbonisés et de fonds de vin rouge dans des récipients qui ont montré que, effectivement, le vin était pas seulement consommé, mais produit à Alba. Les datations ont permis de confirmer, reconfirmer, parce que cette découverte détonne vraiment par rapport à ce que l'on sait de la viticulture et de l'histoire de la viticulture des datations. Ces datations, en fait, sur tout le pourtour méditerranéen, évoluent beaucoup parce que la vigne, en fait, à l'état sauvage, à l'état naturel, existait bien entendu en Gaule. Mais le fait de le cultiver, ces dernières années, on se rend compte que la datation de cette maîtrise, de cette agriculture, recule vers des périodes de plus en plus anciennes, sur le pourtour méditerranéen déjà, et ensuite, on se rend compte que ça remonte aussi de manière de plus en plus ancienne en Gaule, et Alba alimente ce mouvement de recherche.
Parce que là, on est au 5e avant notre ère, et on est très au nord par rapport aux découvertes précédentes. C'est ça, en fait, qui est aussi étonnant.
Voilà, c'est ça. On est plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. C'est une découverte auxquelles les archéologues ne s'attendaient absolument pas pour des vestiges de cette époque. D'autres choses auraient pu être plus classiques, des habitats, des fours, des aires de consommation, de l'artisanat, etc. Mais pas du tout ce type de culture. Preuve, encore une fois, que les archéologues, même à partir de choses qui peuvent paraître vraiment insignifiantes, arrivent à faire parler des indices de manière extrêmement significative et pertinente et qui bouleverse aussi nos perceptions que l'on peut avoir sur l'histoire de ces Gaulois.
Des Gaulois qui, sous le règne romain, vont cultiver le raisin jusqu'à des contrées qui peuvent aujourd'hui surprendre, comme la Bretagne, la Normandie et même jusqu'en Gaule belge.
Alors la vigne qui va avec la culture de l'olive et du blé, c'est un peu le triptyque, alors très méditerranéen. Alors l'olive, la cultiver en Belgique, c'est un peu compliqué, mais pour la vigne, ça peut être possible, et lorsque cela est possible, effectivement, il y a des productions locales. C'est assez significatif de ce que pouvait être le commerce, l'équilibre entre commerce et production locale dans l'Antiquité. Ce qu'on pouvait produire localement, ce qu'on pouvait obtenir localement, on le produisait ou on l'obtenait. Et puis on pouvait faire venir aussi des choses qui venaient de l'autre bout de l'Empire romain, comme par exemple des crus assez renommés qui venaient de Campanie, que les personnes les plus riches, les plus hauts dignitaires pouvaient se permettre de faire venir et de faire traverser la Gaule ou la Méditerranée, pendant que le commun des mortels buvait ce qu'on pouvait appeler un vin qui ressemblait techniquement plus à du vin vinaigre, coupé avec de l'eau, avec du miel, avec des épices, etc., en tant que boisson quotidienne. Donc on a vraiment cette dualité qui n'en est pas vraiment une, en fait, mais qui est un reflet des relations économiques et sociales et des différentes strates de la société qui se manifestent à travers ce commerce. Mais en tout cas, ça reflète bien aussi un mode de vie à la romaine, basé sur ce triptyque, le blé, l'huile d'olive et puis le vin et le raisin.
Alors tout ça va durer jusqu'au 3e siècle. Dans le courant du 3e siècle, il y aura ce qu'on appelle une crise.
Oui, aujourd'hui on en entend parler en long, en large et en travers. Effectivement, au 3e siècle de notre ère, les premières invasions barbares commencent à perturber l'Empire romain. On se trouve sous le coup aussi de perturbations politiques, de perturbations économiques, ce qui fait que l'Empire commence petit à petit à vaciller. À Alba, c'est vrai qu'on commence à le percevoir à travers des abandons de bâtiments, l'abandon du théâtre antique. On perçoit aussi d'autres constructions qui sont faites malgré tout, mais on voit que les constructions ne sont plus faites tout à fait avec la même attention, ni même les mêmes pierres, ce qui fait qu'on voit bien que les préoccupations ne sont plus tout à fait les mêmes et que la crise se fait sentir jusque dans le choix des matériaux de construction.
Alors ce qui peut aussi fausser l'idée de l'ampleur de cette crise, c'est qu'à cette période, les amphores résistantes aux siècles qui passent sont de plus en plus remplacées par des tonneaux de bois pour le transport et que le bois résiste moins bien à ce temps qui passe. Mais au fait, est-il vrai que le vin blanc était plus apprécié que le vin rouge? Retrouvons Adeline Clé pour obtenir des éléments de réponse.
Tout à fait, le vin blanc était plus aisé à obtenir. On ne macérait pas non plus la peau du raisin qui permet d'obtenir aujourd'hui cette couleur rouge. Pour avoir goûté aussi et vu donc des essais de reconstitution de vin antique, un vin rouge était rose. Ils étaient aussi beaucoup plus titrés, beaucoup plus forts en alcool. La vinification, le processus n'était pas aussi bien maîtrisé qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que presque on pourrait parler d'autre chose que du vin, même si le terme reste parce que le procédé reste globalement similaire. Mais on était vraiment sur une toute autre boisson, qui était la boisson du quotidien déjà, pour les plus modestes comme pour les plus riches. Le goût était extrêmement différent. Beaucoup moins agréable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un vin qui est un produit que l'on déguste seul. Le fait rien que de le couper avec de l'eau aujourd'hui devient quelque chose presque de sacrilège. Alors que dans l'Antiquité, c'était extrêmement courant et même nécessaire pour qu'il puisse être digeste et peut-être même un chouïa apprécié. Donc on pouvait y mettre de la glace, par exemple. On pouvait le chauffer et faire du vin chaud. Y mettre des épices, y mettre du miel, le déguster dans une amphore, sachant que celle-ci avait été poissée, qui lui donnait un petit goût légèrement différent. Donc le vin n'était pas un produit qu'on pouvait déguster en tant que tel seul. Il fallait faire quelque chose pour qu'il puisse être apprécié et consommé.
Et on avait ce qu'on appelle à l'époque des tavernes.
Tout à fait, des tavernes, donc un peu comme des... Alors, pas tout à fait des food trucks, mais un peu sur ce format-là, mais d'établis dans des petites boutiques en bord de rue, où on pouvait se poser, boire un verre, manger quelque chose qui était réchauffé, comme de la restauration rapide, où on pouvait, enfin voilà, boire tel vin, boire un peu de bière aussi. Donc oui, ça faisait partie des commerces extrêmement courants. Il faut savoir aussi que le fait d'avoir une cuisine chez soi, aujourd'hui, c'est quelque chose de très courant. Dans l'Antiquité, on n'avait pas forcément la place à la maison d'avoir une cuisine. Eh bien, les tavernes permettaient de suppléer au fait que l'on n'avait pas de cuisine chez soi, jusqu'à assez tard en fait, et donc en centre-ville, on allait boire un petit coup et puis manger à la taverne.
Et ces tavernes, pour les découvrir, les imaginer, c'est à Pompéi, en Italie, qu'il faut aller. Leur état de conservation est tout bonnement incroyable. Encore un mot pour vous dire déjà que le thème du vin et de la viniculture dans l'Antiquité sera celui de l'exposition temporaire de Muséal en 2022 et 2023. Contrairement aux habitudes, c'est avec les infos du pôle archéologique départemental muséal que nous poursuivons cette chronique où sont passés les Romains. Et au programme de novembre, notez bien cette date, le samedi 14 novembre, car c'est ce jour-là la nuit des musées. Et dans ce cadre, Muséal propose deux rendez-vous. Tout d'abord, une conférence sur le chantier du théâtre antique d'Orange, conférence avec Alain Bindy, ingénieur en recherche au CNRS, à la Maison méditerranéenne des sciences et de l'homme, et par ailleurs, architecte archéologue. Il sera accompagné par Sandrine Dubourg et Anna Papadopoulou, toutes deux également architectes archéologues. Ce sera gratuit, après inscription, à 17h. Autre rendez-vous pour cette nuit des musées, un atelier d'écriture inspiré par le fleuve Rhône. Atelier animé par Diane Pellin, auteure ardéchoise de nombreux romans en partenariat avec le réseau Cap sur le Rhône. Là encore, c'est gratuit. Après inscription auprès de Muséal, ce sera de 16h30 à 19h30, samedi 14 novembre. Nanana. Notez encore que la fermeture hivernale de Muséal est programmée du 30 novembre au 27 décembre, mais que des ateliers sont déjà prévus à l'occasion de la seconde semaine des vacances scolaires, à savoir du 28 au 31 décembre. Ateliers qui auront lieu à 14h, puis 16h15. Thématique de ces ateliers et inscription 04 75 52 45 15. Où sont passés les Romains ? C'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour le dernier rendez-vous de l'année. D'ici là, n'oubliez pas que le vin, qu'il soit antique ou contemporain, se boit avec modération. Na, 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 na.